Bien, bonsoir, merci d'être venu ce soir. On va commencer d'être venu si nombreux pour écouter Anna Kral, dont je suis très heureux de rencontrer ici, avec Mariusz Czego, qui sont deux auteurs importants, deux générations différentes, mais très importants en Pologne aujourd'hui. Nous allons parler de ce qu'il est convenu d'appeler le reportage littéraire. Alors, c'est une forme de journalisme, mais c'est aussi une forme de littérature. Ça dépend un peu de quel point de vue on se situe. Et une chose est sûre, c'est que c'est important en Pologne, parce qu'en Pologne, vous avez même un institut qui enseigne ce type de reportage. Donc, on peut, disons, rapporter cette forme d'écriture journalistique ou littéraire à tout un courant qui existe d'ailleurs dans le journalisme depuis le milieu du XXe siècle. Vous avez par exemple des grandes références aux États-Unis comme Truman Capote ou Tom Wolfe. Vous avez en France des gens comme Albert Londres ou Joseph Kessel ou plus récemment Jean Hartzfeld, qui sont autant de journalistes qui vont aussi dans le même sens. Mais c'est un type de journalisme, un type d'écriture, je dirais plutôt. Je préfère parler d'écriture que de journalisme. Même si Anna Kral dit toujours, quand on lui pose la question, qu'elle est d'abord une reporter. Mais enfin, pour moi, elle est aussi d'abord une écrivaine. Dans cette forme de journaliste, j'insisterai, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de spécial, de spécifique dans ce journalisme et cette écriture en Pologne. C'est de toute façon, au moins, une mise en récit de l'information qui est une mise en récit qui fait appel à toutes les techniques de la littérature et qui d'une certaine manière flirte ou se rapproche de la fiction. Alors on va avoir des exemples, on va parler de ce livre qui s'appelle La mer dans une goutte d'eau, qui est une réunion de reportages des années 60 et 70 et 80, peut-être aussi 80, de ceux qu'on a appelés le père et la mère du reportage littéraire en Pologne. Le père, c'est Richard Kapuściński, et la mère, c'est Anna Kral. Après, on aura un enfant du couple, qui est Mariusz, qui lui est la génération suivante et qui a commencé à publier dans Gazeta Wyborcza dans les années au début des années 90. Donc je ne vais pas vous présenter longuement tout le monde, mais d'abord un mot sur Kapuściński qui est absent, comme vous savez, il est décédé, mais qui est très connu en France. On connaît de lui essentiellement ses livres, notamment le Négus, je pense à celui-ci, je pense également à ce livre qui est pour moi un des livres les plus importants que j'ai lus sur l'Union soviétique, qui s'appelle Imperium, qui est malheureusement qui est traduit en français mais qui n'est pas très connu. Et je pense également à un livre qui a eu un grand succès en France, qui est Eben. Tous ces livres ont été traduits en français par Véronique Patt. Et vous avez à peu près une dizaine de ces livres qui sont traduits en français, je crois quasiment tous ces livres, donc qui ont paru entre les années fin des années 80, début des années 90, et les derniers au début 2000. Ensuite, donc, la mère de ce reportage littéraire, qui est Anna Kral, qui est également connue, très connue en France, à mon avis. On la connaît essentiellement à travers ses livres et des livres très émouvants dans lesquels elle fait référence et évoque la mémoire juive en Pologne et la mémoire des Juifs en Pologne. Et là également, elle s'est fait connaître. Le premier texte qui a paru en français d'elle est paru ensuite chez Gallimard sous le titre « Prendre le bon Dieu de vitesse ». Mais c'est un texte qui avait été publié déjà au début des années 80. Et qui est une longue entretien avec Marek Edelman. Aujourd'hui, c'est un texte qu'on étudie dans les classes en France, de temps en temps. au lycée, et je pense que c'est vraiment un très grand texte sur, pour comprendre ce que c'est que la, ce qu'a été l'insurrection de Varsovie, du ghetto de Varsovie. Marek Edelman, comme sans doute vous savez tous, était le dernier commandant de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui a survécu après la guerre. Mais elle a également écrit des textes, des livres dont les titres eux-mêmes sont forts et évoquent bien. Vous avez par exemple ce livre qui s'appelle « Preuve d'existence » qui est paru en 1998. Et dans ce livre « Preuve d'existence », comme dans l'autre, dans d'autres livres, celui par exemple qui s'appelle « Danse aux noces des autres » qui est pour moi un de ses plus beaux livres, dans ces livres, vous avez, elle évoque des vies, des personnages, des situations, des souvenirs, et avec une forme de récit qui est tout à fait spéciale. Et pour ne pas me lancer dans une analyse littéraire, je me permettrai de donner simplement une phrase de Kapuscinski, qui parle des phrases d'Anna Kral. Et il dit, ces phrases, en apparence si posées et limpides, enferme des températures très élevées. Et c'est un peu cette façon de décrire, à la fois simple, intime et très forte, qui fait que non seulement elle fait un reportage de type très spécial, mais c'est une grande écrivaine. Donc nous avons également Mariusz Szczegół, qui est, lui, comme je vous l'ai dit, c'est la génération suivante. Nous avons en France deux livres de lui, qui sont publiés aux éditions Actes Sud. Un livre qui s'appelle Gotland, qui a paru en 2008, et l'autre, Chacun son paradis. Il était correspondant de Gazeta Wyborcza à Prague, où il a vécu, je pense, une dizaine d'années. Et pour connaître assez bien aussi cette ville et cette histoire, je n'ai jamais lu un livre aussi fort sur Prague que Gotland depuis le livre de Ripellino. Vous connaissez bien sûr le livre de Ripellino qui s'appelait Prague magique, qui était un grand livre qui vous racontait Prague à travers la littérature, et lui, il vous raconte Prague à travers les gens, à travers leur histoire, à travers les lieux. Et c'est ça fait de ce livre un livre qui est vraiment, à mon sens, un des livres les plus forts que vous pouvez lire sur cette ville. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller pour le lire, puisque ça, c'est écrit justement dans ce style, qui est un style aussi de reportage, mais qui est quand même un style d'écriture. Il raconte des tas d'histoires, enfin je ne vais pas vous raconter ça, mais notamment une histoire extraordinaire sur la pseudo-maîtresse de Goebbels, qui est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Bien, avec Anna Kral et Mariusz Szczegół, nous avons la traductrice de tout ce beau monde. Elle a traduit quasiment tous les textes de Anna Kral. Elle a traduit les deux textes de Mariusz, Margot Carrier, qui est également l'auteur d'une première anthologie qui avait paru il y a à peu près 5-6 ans, je pense, 10-11 ans, aux éditions Noir sur Blanc, sur le reportage littéraire, où elle attirait l'attention du lecteur français sur ce style, sur cette façon de faire. Il y avait déjà des textes de Szczegół, des textes de Anna Kral dans ce livre. Il y avait d'autres textes, notamment, il me semble qu'il y avait un texte de Brandis. Il y avait un texte de Marianne Brandis et il y avait des textes de Kapuscinski. Et Marianne Brandis, qui était aussi un autre maître de cette... que Anna Kral considère comme un de ses maîtres, qui était un des maîtres de cette façon d'écrire. Et donc, elle a présenté. Alors, pour commencer la soirée, qui va être la discussion, la conversation va être entrecoupée de quelques lectures qui vont être faites par Gabriel Forest, qui sont des lectures issues de ce livre. Je voudrais d'abord demander à Margot Carrier de me situer justement cette école de reportage littéraire polonaise. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique?
Alors, Ma rencontre avec l'école, avec le reportage polonais, ça a commencé grâce à Anna Kral. Comme vous l'avez dit, je suis sa traductrice. Et donc chaque fois quand j'allais en Pologne et quand je traduisais ses textes, elle me parlait beaucoup de reportage. Et en lisant ses textes, je n'ai pas commencé par ce livre-là. C'était des textes sur plus
preuve d'existence.
Non, c'est la sous-locataire.
Ah oui, sous-locataire.
Ça, c'est un roman, mais un roman très inspiré de la réalité. Et j'étais déjà très impressionnée par le fait que tout ce qu'elle écrit, enfin, elle, justement, elle-même, elle se situait toujours, elle se définissait comme reporter. Pour moi, c'était de la pure littérature, et ça l'est toujours. Hein. Donc, ensuite, en allant en Pologne, c'est grâce à Anna Kral, c'est d'ailleurs grâce à Anna Kral en partie, grâce à Mariusz Czejo, que j'ai eu l'idée de cette première anthologie du reportage polonais. La vie est un reportage, et j'ai rencontré beaucoup de jeunes reporters qui m'apportaient leurs textes. J'ai fait un choix, j'étais très fortement encouragée d'ailleurs par Mariusz et par Wojciech Dorman.
Wojciech Dorman qui a aussi un livre publié, deux livres publiés en français, un sur le Rwanda et l'autre, je ne sais plus.
Et l'autre sur la Bosnie.
Sur la Bosnie, oui, sur la Bosnie.
Sur la Bosnie. Et j'étais, enfin, ce qui m'a, ce que je trouvais très surprenant, c'est cette façon d'écrire de manière très littéraire. Quand on dit le reportage littéraire, pour moi, littéraire, ça concerne la forme. Alors que parfois, quand on dit, parle avec des gens, des journalistes ici, ils sont très surpris en disant qu'en France, quand on dit reportage littéraire, ça sous-entend un peu que ça peut être fictionnel, ça a trait à la fiction. Alors que dans ce qu'écrit Mariusz ou Anna Szczygieł, ils ont une démarche de reporter, vont chercher l'information, vérifier, mais ils écrivent de manière comme un écrivain. Ils font très attention à la forme, comme vous disiez, ne serait-ce que dans ce livre. Chaque texte est pratiquement écrit de façon différente. On peut écrire à la première personne, à la deuxième. Il y a toujours un souci de la composition, de style. Je trouve que c'est assez polonais, c'est un phénomène polonais, le reportage littéraire, c'est assez entretenu d'ailleurs comme courant littéraire à part entière, mais il y a en effet beaucoup de jeunes collègues de Mariusz Czejo, d'Anna Kral, qui écrivent justement, qui tiennent à rendre compte de la réalité, mais en écrivant comme des écrivains.
Oui, mais les sujets de ces reportages ne sont pas non plus anodins. Cela dépend aussi de la période dans laquelle on se trouve. Ce que vous, aujourd'hui, nous sommes dans une période où il y a une liberté d'expression complète, enfin, pour l'instant encore, en Pologne. Mais à l'époque où est né ce type de reportage, ce n'était pas la même chose.
Non, ce n'était absolument pas la même chose. Il y avait la censure, donc évidemment, il était très difficile de critiquer le système de manière ouverte. Mais là, c'était d'ailleurs aussi bien chez Anna Kral que chez Ryszard Kapuściński. Il parlait de la réalité communiste, de la réalité grise et un peu sans espoir, en parlant toujours en partant des histoires individuelles. Ce n'était pas une histoire, enfin, il n'y avait jamais de théorie sur le système, c'est toujours des petites histoires, enfin, des gens ordinaires. Par exemple, dans ce livre, il y a un texte qui s'appelle « Portrait de la famille à l'intérieur ». Et là, voilà. Et là, c'est un petit texte où il y a juste la description d'une famille qui vit à 6 dans un petit appartement. Donc, en plus, ils sont heureux. Enfin, ils racontent, c'est très bien. On est très content. Le père travaille dans une usine qui marche très bien. La mère est enseignante et donc quand elle corrige les devoirs. Elle, quand tout le monde est couché, elle va dans la salle de bain, elle s'assoit, elle corrige les devoirs et elle dit je peux poser tout sur la machine à laver, elle est très bien, c'est une machine qu'on a achetée il y a 10 ans, elle marche très bien. Et donc, il y a, en même temps, il y a une dénonciation de ce système, un petit peu comme si c'était pas par hasard, mais on dit pas, on raconte pas les choses, on critique pas, mais on raconte des réalités qui sont tellement dures que ça, enfin, moi, en tout cas, ça m'impressionne énormément.
Oui, on va voir d'ailleurs comment cette manière d'écrire, qui commence donc dans une situation de contrainte, va se changer au fur et à mesure avec la période d'après 89. Mais là, je voudrais qu'on lise tout de suite, on commence par lire un texte d'Anna Kral, justement où elle se pose la question, qui est un texte qui date des années 60, où elle se pose la question du sujet de son reportage. C'est-à-dire qu'elle va, poser la question à un ingénieur. Allez-y.
Monsieur l'ingénieur, dis-je, il me faut quelque chose d'intéressant pour un reportage. Nous remplissons nos objectifs avec régularité, malgré les congés d'été, répond l'ingénieur. Ça, je le sais, je regarde le journal télévisé. Vous disposez aussi d'une grande quantité de boissons rafraîchissantes. Mais en toute franchise, est-ce vraiment cela que vous-même vous aimeriez lire ? L'ingénieur. L'homme, en tant qu'être humain, aime lire des histoires d'amour. Que ce soit Joyce, Camus ou bien notre Jéromski, national. Il doit obligatoirement y avoir un peu de sexe. On a essayé d'en finir, poursuit-il, et d'écrire sur le travail, mais ce n'était pas aussi intéressant. Alors, si vous arrivez à combiner le travail avec le sexe, vous aurez peut-être votre reportage. Sujet proposé par l'ingénieur. Le dernier mot dans le domaine érotique. Lui pourrait être cadre, elle, une simple ouvrière chargée de la distribution des outils. Tous les deux travailleraient à l'usine dans le même service, mais lui aurait une femme et un enfant. Et il va de soi que nous devons veiller à préserver les intérêts de la famille. Il aurait à cœur de traiter le problème de façon à éviter tout esclandre. Mais son épouse, elle, le guetterait à la sortie, caché derrière un kiosque, ou bien elle irait porter plainte à la délégation syndicale de sorte que tout le service finirait par être au courant de cet amour. Précisons d'emblée que le personnel prendrait fait et cause pour l'épouse. Une épouse qui va se plaindre aux responsables du parti, c'est normal. Tandis qu'un cadre d'entreprise qui flirte avec une préposée aux outils, ça, c'est condamnable. Cette différence sociale entre le cadre et la simple employée, embauchée comme ouvrière non qualifiée, mérite tout de même d'être mise en relief. Car il n'est pas exclu que si tous les deux étaient cadres, ou simples ouvriers non qualifiés, l'opinion serait moins choquée et défendrait les intérêts de la famille avec un peu moins de zèle. Cela explique peut-être pourquoi, confronté au secrétaire du parti que lui suggère de mettre impérativement fin à tout cela, le directeur répond « Quel mal y a-t-il à ce que chez nous, le progrès de la classe ouvrière se ressemble jusque dans la vie privée. N'est-ce pas ce que nous revendiquons pour la société ?» À partir de là, le secrétaire du parti serait contraint de convoquer le cadre à la permanence syndicale pour une explication. Explication qui, à peu de choses près, pourrait se dérouler comme suit. « N'ai-je pas fait toutes les analyses dans les détails ?» demanderait le cadre. Et le secrétaire du parti devrait admettre qu'en effet, tout avait été réalisé à temps et sans la moindre erreur qui plus est. Et elle, n'a-t-elle pas parfaitement exécuté ses tâches ? Et de nouveau, le secrétaire devrait acquiescer. Pour le reste, c'est une affaire personnelle qui ne concerne que moi, terminerait l'ingénieur. Et le secrétaire n'aurait plus rien d'autre à faire que de lui donner un conseil. Réfléchissez encore tranquillement à tout ça, car tout comme le directeur, il sait parfaitement qu'il serait impossible de trouver dans leur ville un autre spécialiste aussi expérimenté. À partir de ce moment, le directeur, le secrétaire du parti et le délégué syndical pourraient regarder l'affaire d'un autre œil. Sans doute verraient-ils des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Qu'elle avait une taille de guêpe, par exemple. Et de jolies jambes aussi, surtout en été, quand elles étaient bronzées, qu'elle était gracieuse et se tenait toujours bien droite. Et que travailler avec une telle préposée aux outils pouvait être très agréable pour des hommes ayant la quarantaine. Par conséquent, lorsque le cadre ira voir le directeur, qui du reste a été le premier à saluer gentiment l'ouvrière en question, soit pour montrer l'exemple à l'équipe, soit parce qu'il a inconsciemment accepté la situation. Lorsqu'il ira donc le voir pour demander l'attribution d'un logement, car il finira bien par le faire, le directeur ne pourra s'empêcher de penser « Ma parole, mais il pète la forme celui-là » mais il se contentera d'une simple question plutôt qu'une réflexion. Dites, ce sera votre dernier mot en matière d'érotisme, monsieur l'ingénieur ? Ce ne sera ni sarcastique, ni envieux, mais juste concret, car tout le monde connaît l'ampleur du problème du logement.
Donc vous voyez comment, d'un sujet, on va à un autre. Anna Kral, de quand date ces reportages, Anna Kral ? Et dans quelles conditions vous pouvez faire ça ? Où est-ce que ça a paru ? Dans quel journal ?
Wszystkie reportaże, które są tutaj, poza jedną, poza tekstem o Walentynowicz, ukazały się w latach 70. Wszystkie w tygodniku Polityka. Mimo że tytuł jest polityczny tego tygodnika, to było bardzo dobre pismo i miało świetny reportaż, świetny. Bardzo dbali o reportaż, było kilkoro bardzo dobrych reporterów. Kapuściński zresztą też w tej polityce drukował i do dzisiaj zresztą jest tam bardzo dobry reportaż.
Tous les reportages qui sont publiés dans ce volume, en fait, sauf un, celui sur Anna Valentinovic, sont parus dans les années 70 dans l'hebdomadaire Politica. Alors même si le titre de l'hebdomadaire est politique, c'était en fait un très bon hebdomadaire qui publiait des très bons reportages. D'ailleurs, Kapuściński publiait lui aussi ses textes dans cet hebdomadaire. Et il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, le reportage est vraiment le point fort de cet hebdomadaire.
Chciałam jeszcze dodać, że ten inżynier, o którym tu opowiada, miał rację, dał bardzo dobrą radę, że trzeba pisać o miłości. I zresztą tu większość tekstów jest o miłości. Ja bardzo się z tym zgadzam. Miłość to jest wspaniały temat, a poza tym miłość była cenzuralna. Cenzura się nie zdejmowała tekstów o miłości. Wszystkie inne, z jakimiś innymi miałam kłopoty, cenzura zatrzymywała moje teksty, książki, raz topiła metal, raz mieliła papier, a ta książka się spokojnie ukazała, ponieważ była o miłości. Ja uważam, i tak się starałam, pisać o takich uczuciach odwiecznych. Kieślowski nazywał to nadwyżką, taką nadwyżką metafizyczną. Dobrze, żeby była nadwyżka. I ta nadwyżka brała się właśnie z takiej odwieczności. Miłość, strach, odwaga, dobro, zło. Z tym, że nie wszystkie uczucia były cenzuralne. Strach jest niecenzuralny na przykład. A miłość tak.
Alors je voudrais encore ajouter quelque chose à propos de cet ingénieur. Effectivement, il avait raison, il m'a donné un très bon conseil. Il m'a conseillé d'écrire sur l'amour. Et d'ailleurs, la plupart des textes dans ce volume parlent de l'amour. Je suis tout à fait d'accord, ce thème de l'amour est un thème excellent, mais qui plus est, c'est un thème qui passe facilement par la censure. En fait, j'avais beaucoup de difficultés à publier d'autres types de textes. Parfois, mes livres déjà publiés, déjà imprimés, étaient brouillés. Parfois on a fondu les métals qui servaient à imprimer le livre, mais j'ai pu publier ce livre qui parlait d'amour. J'ai toujours essayé en fait de parler dans mes livres de ces sentiments sempiternels, de ce que Kapuściński lui-même appelait le supplément ou le surplus métaphysique. Effectivement, ces grands sentiments tels que l'amour, la peur, le courage, le bien ou le mal sont des très grands sujets, mais parmi ceux-là, il n'y a que l'amour finalement qui arrive à passer par la censure. La peur, par exemple, est un sentiment que la censure arrête immédiatement.
Alors, est-ce qu'on peut dire que votre style vient de cette contrainte qu'est la censure ?
Czy można powiedzieć, że pani styl wziął się właśnie z tego ograniczenia, jakim była cenzura?
Une façon de jouer avec.
Non, je ne le pense pas.
Style się wziął z nudy, z takiej przeokropnej nudy, która była w PRL-u. I z tą nudą musiałam coś zrobić. O to, żeby ta nuda nie przedostała się, żeby moje teksty nie były równie nudne jak ten świat dookoła.
Alors je pense que mon style est plutôt né de l'ennui, de cet ennui mortel de la Pologne communiste. En fait, j'essayais de lutter contre cet ennui par mon style. J'essayais de faire en sorte tout simplement que mes textes ne soient pas aussi ennuyeux que le monde qui les entourait.
Et vous avez fait, une expérience qui me plaît beaucoup. Après le coup d'État de Jaruzelski, on vous a, viré de Politica et vous avez retrouvé du travail.
Je suis partie moi-même.
Elle est partie, oui, elle est partie, bien sûr. Et donc, vous êtes allée dans un journal de pêcheurs à la ligne ou de pêcheurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Vous avez travaillé dans un journal un peu bizarre.
Peut-être pas, mais dość dziwnej gazety.
Przede wszystkim przeszłam do bardzo dobrego zespołu filmowego TOR, bo na drugi dzień, jak odeszłam z polityki, to przyszedł Krzysztof Kieślowski z taką, powiedziałam, humanitarną propozycją, bo musiałam mieć kartki, bo wtedy były kartki. Musiałam mieć kartki lekarza, a jak byłam bez pracy, no to nadal musiałam coś jeść. I Krzysztof Kieślowski przyszedł i powiedział, że mnie zatrudnia. Ja powiedziałam, że ja nie mam zielonego pojęcia, przecież to filmy, nic nie szkodzi, my cię nauczymy. I pracowałam też. Ale oni bardzo marnie płacili. Te kartki były, ale jednak trzeba było jakoś zarobić. I wtedy mi zaproponowano pracę w piśmie wiadomości wędkarskie. Muszę powiedzieć.
Tak, po trochu lepiej.
Oui, donc tout d'abord, juste après mon départ de Politica, j'ai rejoint une équipe cinématographique, une espèce de maison de production, TOR. C'est Krzysztof Kieślowski, en fait, qui me l'a proposé le lendemain de mon départ de chez Politica, où il m'a fait cette proposition très humanitaire. En fait, à l'époque, il y avait des bons de rationnement pour acheter de la nourriture, et sans travail, on ne pouvait pas les avoir, donc il fallait bien que je me nourrisse. Il m'a donc proposé de m'employer. Je lui ai bien expliqué que je n'avais aucune idée du cinéma. Il m'a dit « ce n'est pas grave, on va t'apprendre ». Et donc, j'ai commencé à travailler chez eux. Cela m'a donné accès, certes, à ces bons de rationnement, mais ils payaient assez mal. Et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler dans un journal qui était le journal des pêcheurs à la ligne.
No, z rybami ja miałam dotychczas tyle wspólnego, że bardzo dobrze robię kartę po żydowsku. Gefilte fisch, to się nazywa.
Alors, mon seul contact jusqu'à présent avec les poissons était celui qui est plutôt culinaire. Je prépare une très bonne carpe à la juive. Donc, lorsque je rencontrais un poisson, c'était toujours sur la table, sur une assiette.
Nawet sobie wymyśliłam tak greps, nie wiem jak pani greps przetłumaczy, wymyśliłam sobie, że ja będę pisała dla żon wędkarzy, wędkarz wędkuje, a żona siedzi i się nudzi, więc ja będę pisała dla tych żon i zaczęłam rozmawiać z ludźmi o rybach. Z profesorem Samsonowiczem, który jest bardzo rektorem Uniwersytetu Warszawskiego był, bardzo wybitnym historykiem o średniowiecza, rozmawiałam z nim o rybach w średniowieczu. Z profesorem Jerzym Szackim, równie wybitnym historykiem idei, rozmawiałam o rybach w historii myśli społecznej.
Et donc j'ai eu une idée, en fait j'ai décidé dans ce journal destiné aux pêcheurs à la ligne d'écrire pour les femmes, pour les épouses de ces pêcheurs à la ligne. Les pêcheurs à la ligne passaient leur temps à pêcher, leurs femmes s'ennuyaient à la maison, je me suis dit que j'allais publier des textes pour elles. Et j'ai donc commencé à parler avec différentes personnes des poissons. Donc j'ai pu interroger le professeur Samsonowicz qui était à l'époque recteur de l'université de Varsovie, qui était un éminent historien spécialiste du Moyen-Âge, et j'ai parlé avec lui du sujet des poissons au Moyen-Âge. J'ai ensuite interrogé un autre éminent professeur, Jerzy Szatski, un historien d'idées, et j'ai parlé avec lui des poissons dans l'histoire de la pensée sociale.
Z Agnieszką Morawińską, która dzisiaj jest dyrektorem Muzeum Narodowego, rozmawiałam o rybach w polskim malarstwie.
J'ai aussi interrogé Agnieszka Moraliska, qui aujourd'hui dirige le Musée National à Varsovie, et j'ai parlé avec elle des poissons dans la peinture.
A wszystko to miało tytuł Smutek ryby.
Et tout ce cycle s'intitulait La tristesse des poissons.
Vous voyez très bien comment, d'une certaine manière, là on est à la charnière, on peut parler d'une chose en parlant d'une autre.
J'ajoute juste que j'ai reçu une espèce de récompense de la part des lecteurs, les diplômes de leur journaliste préféré.
Voilà. Donc, vous avez vu en plus que dans ce qu'elle a fait allusion à deux de ses activités qui sont très importantes, on ne va pas pouvoir les développer ici, mais le rôle qu'elle a joué dans le cinéma aussi, elle a été co-scénariste, elle a beaucoup travaillé avec Krzysztof Kieślowski, que vous connaissez tous, avec notamment dans le Décalogue et autres. Et elle est également une des grandes maîtres, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de l'interroger, c'est une des grandes maîtres de l'entretien, de l'interview. Elle a fait des interviews absolument extraordinaires. Alors, elle est l'intervieweuse interviewée, mais je pense que c'est vraiment très important de le souligner. Et donc, on va tout de suite, avant de revenir sur un autre sujet, je voudrais tout de suite faire lire un texte de Kapuscinski qui, justement, nous parle d'une chose en nous parlant d'une autre. Et là, nous sommes en train de dans un bal en province, du côté de Holstein, qui est au nord-est de la Pologne, dans les années 60, si je me souviens. Et voilà, il décrit ce bal.
Un bien joli bal, me racontèrent les filles de Pratki. L'orchestre venait du chef-lieu de la Voïvodie, de la ville d'Holstein. Deux autres personnes avaient débarqué avec les musiciens. Un bout en train, épatant, chargée d'attribuer les numéros aux danseurs, et une chanteuse crêpée à la mode, mais un peu trop maigrelette à leur goût. La caserne des pompiers avait été balayée, les fenêtres nettoyées. L'effet était très réussi. Une lumière rouge et bleue se propageait dans la salle grâce aux décorations en papier crépon. Le mur droit de la salle des fêtes était azuré, alors que le gauche flamboyait de pourpre. Les filles étaient alignées du côté bleu, les garçons du côté rouge. Ils étaient séparés par un espace bigarré, avec l'orchestre épinglé comme une broche au beau milieu, mais les jeunes gens se voyaient bien. Dans le village, il y avait 15 jeunes filles pour 4 jeunes gens. Les filles fixaient les garçons, raides comme des piquets dans leur costume de fête noire, avec un truc en matière plastique attaché sous le menton à l'aide d'un élastique. Des messieurs, gominés et baignant dans les vapeurs de l'eau de Cologne d'Herby. Les garçons lorgnaient dans la direction des jeunes filles avec gravité, jaugeant la qualité de leurs épingles à cheveux, de leurs robes en nylon et de leurs bijoux de chèque, tout en échafaudant les éternels mêmes plans dont ils remettaient la réalisation à plus tard. Pour commencer, me racontèrent les jeunes filles, le saxophoniste Dolchin interpréta un tube intitulé 24 000 baisers. Après l'avoir écouté, Marianne Gelsion s'écria : Allez les gars, on y va ! Mais personne ne broncha. Un silence tendu s'installa. Les 4 garçons flamboyaient dans le pourpre à gauche, les 15 filles blêmissaient dans l'azur à droite. Les raisons de cette tension silencieuse, vrillées par les jappements stridents du saxophoniste, étaient évidentes. Elles relevaient de l'arithmétique. 15 sur 4. Un bon résultat pour un match de handball, mais un déséquilibre fatal pour un bal aussi sensationnel, avec un orchestre venu d'Holstein et un effet très réussi. Le silence accablait les rouges, qui mûrissaient leur choix dans la concentration, mais il accablait aussi les bleus, dont l'espérance était aussi pesante que le silence des étoiles. Tous savaient que la vie au village allait dépendre de la tournure que prendraient les choses. Aucun ne voulait donc se lancer à la légère. Pour finir, les 4 de gauche passèrent de l'autre côté et prononcèrent la formule consacrée à l'adresse de 4 bleus. « On se la linge, cette valse, oui ?»
Nous sommes là dans un petit village et on voit un peu aussi quelle était la situation, les relations entre les hommes et les femmes après la guerre. D'ailleurs, ça va déboucher sur une question autour de l'hygiène, puisqu'il y aura toute une histoire après avec le dentifrice. Mais je voudrais dire à Mariusz, m'adresser à Mariusz, parce que je crois que c'est un peu ce type d'histoire qu'il aime, qu'il nous raconte en général. Et je voudrais vous demander, quand vous êtes arrivé à Gazeta Wyborcza, au début des années 90, Gazeta Wyborcza, tout le monde le sait, mais je le rappelle, c'est le quotidien qui est sorti du changement de régime en 89 et qui était à la fois un journal extraordinairement populaire, mais qui a aussi été un lieu d'expression de toute une série de courants culturels de toutes sortes, la littérature, et notamment, c'était un des lieux où a pu s'épanouir ce type de reportage. Et d'ailleurs, le premier groupe de reporters qui a été organisé par Anna Kral. Et dans ce premier groupe, il y avait aussi Mariusz. Et peut-être que je pourrais vous demander, première question, qui est une question indiscrète, en fait. Quand vous avez apporté vous avez fait vos premiers reportages et que vous en parliez avec Anna, qu'est-ce qu'elle vous disait? Qu'est-ce qu'elle vous donnait comme conseil? Qu'est-ce qu'elle vous faisait comme critique? Comment est-ce qu'il faut travailler, vous travailler avec elle?
Powiem tak, że kiedy Hanna Kral przeczytała pierwszy mój tekst, to było tak, że 53-letnia Hanna Kral przeczytała tekst 23-letniego autora i powiedziała mu, że pisze w sposób zbyt staroświecki.
Alors, en fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Lorsque Anna Kral a lu mon premier texte, c'était donc une personne de 53 ans qui a lu un texte écrit par un auteur de 23 ans et lui a rétorqué qu'il écrit d'une manière trop vieillotte.
Powiedziała, że zmieniły się już czasy, mamy nową Polskę pokomunistyczną, czasy są inne, nowe i musimy pisać szybciej. W sensie, że zdania powinny być krótsze i mieć taki szybszy rytm.
Donc elle m'a dit que les temps ont changé, qu'on a la Nouvelle-Pologne, que le communisme est bel et bien fini, et il faut donc écrire d'une manière plus rapide. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que les phrases devaient être plus courtes, le rythme devait être plus rapide.
Także to była pierwsza rada, to zdanie powinno być szybciej.
C'était son premier conseil, donc cette phrase devrait être plus rapide.
Ale muszę powiedzieć, że no mojego pisania nie byłoby bez pisania Hanny Kral. To jest taki styl zaraźliwy, który powoduje, że jak młody autor przeczyta to, co pisze Hanna Kral, to potem chce mu się pisać. To jest po prostu coś zaraźliwego. Hanna Kral jako choroba, to powinno być analizowane, analizowane w jakiś sposób naukowy.
Epidemia.
Źródło epidemii.
Et donc je dois dire que je n'aurais jamais écrit sans Anna Kral. En fait, elle a un style qu'on peut qualifier de contagieux. Lorsqu'un jeune auteur lit Anna Kral, ça lui donne immédiatement envie d'écrire. Donc je pense qu'on devrait étudier scientifiquement presque le sujet suivant, Anna Kral en tant que maladie. Une épidémie qui touche tout le monde.
I nie zgodzę się z tym, że nie zgodzę się ze zdaniem Hanny Kral, że jej styl wziął się tylko z nudy. Bo moim zdaniem wziął się także z oszukiwania cenzury.
Moi, je ne serais pas d'accord avec ce que vient de dire Hanna Kral sur son style. À mon avis, il n'est pas né seulement de cet ennui qu'elle décrivait. À mon avis, la contrainte de la censure y a joué aussi.
Dam taki przykład maleńki.
Et je vais citer un exemple.
Kiedy pod koniec lat 60. Hanna Kral w Związku Radzieckim odwiedziła wieś na Syberii, na dalekiej Syberii wieś, gdzie mieszkali polscy zesłańcy.
Alors, lorsque à la fin des années 60, Anna Kral s'est rendue dans l'URSS et elle a rendu visite à un petit village en Sibérie où se trouvaient des déportés polonais.
To usiłowała dojechać tam autobusem, który jeździł bardzo rzadko, prawie w ogóle.
Elle a essayé de s'y rendre sur place en empruntant un autobus qui s'y rendait très rarement, presque jamais.
Ale reporter w Polsce nie mógł napisać oficjalnie, że w Związku Radzieckim nie jeżdżą autobusy, albo że rzadko jeżdżą autobusy.
Mais un reporter polonais n'avait pas le droit tout simplement d'écrire que dans l'URSS les autobus passent que rarement.
I Hanna Kral napisała takie kunsztowne zdanie.
Et Anna Kral a réussi à le formuler dans une phrase vraiment excellente.
Autobus jeździ codziennie.
L'autobus passe chaque jour.
Z wyjątkiem dni, kiedy pada deszcz, pada śnieg i są zaspy.
Sauf les jours où il pleut, les jours où il neige, les jours où il y a beaucoup de neige sur les routes.
Oraz jest błoto po deszczu, po śniegu i po zaspach.
Ou alors les jours où il y a de la boue par terre qui résulte de cette pluie ou de la neige.
I cenzura wtedy się do niczego nie przyczepiała.
Et là, la censure n'avait rien à dire.
Znaczy, wiedzieliśmy, jaka jest prawda.
Nous savions tous en le lisant quelle était la vérité.
To mruganie okiem czytelnik doskonale rozumiał.
Donc c'était un clin d'œil à destination du lecteur et le lecteur le comprenait parfaitement.
Był to szczęśliwy dzień, kiedy nie było błota, deszczu, śniegu, zaspu.
Oczywiście, to było szczęście.
Mais c'était un jour heureux lorsqu'il ne pleuvait pas, il ne neigeait pas et l'autobus n'en passait.
Także mnie ten sposób pisania bardzo imponował.
Moi, j'ai été toujours très impressionnée par cette manière d'écrire.
I kiedy czytałem teksty, które są w tej francuskiej książce teraz zebrane właśnie.
Et lorsque moi, j'ai lu les textes qui sont maintenant recueillis dans ce volume publié en France.
One są bardzo króciutkie, w związku z tym ja pamiętam, jak pierwszy raz w latach 80. w ogóle miałem do czynienia z twórczością Hanny Krall, to ja sobie czytałem jeden tekst dziennie tylko, bo szkoda mi było ich czytać dalej, żeby za szybko nie przeczytać tej książki.
Donc ce sont des textes très courts et je me souviens très bien dans les années 80 lorsque j'ai lu pour la première fois ces textes-là, je me forçais de lire seulement un texte par jour pour ne pas finir trop tôt.
Mais peut-être qu'on pourrait essayer de développer sur la période plus récente avec vous, parce que vous êtes là maintenant, il n'y a plus de censure ou du moins il n'y a presque plus de censure. Mais vous avez quand même vos propres contraintes. Vous avez des contraintes lorsque vous choisissez vos sujets, lorsque on est dans un environnement qui est complètement différent avec les médias par multiples. Vous avez vous-même fait de la télévision, si je me souviens. Il y a toutes sortes de médias autour. Comment aujourd'hui le choix du sujet et la manière d'écrire de ce reportage littéraire est spécifique dans ce moment-là? Aujourd'hui, comment ça s'est transformé? Ce n'est plus un jeu avec la censure, c'est peut-être un jeu avec les médias, c'est peut-être un jeu avec Internet. Comment est-ce que tout ça se fait?
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie krzywdzić mojego bohatera, żeby mu nie zrobić krzywdy, żebym ja nie był przedstawicielem takich mediów, które są, u nas się mówi, krwiożercze. To zawsze mi na tym zależy, że ja piszę po to, żeby swojego bohatera zrozumieć i nic więcej. Zrozumieć to znaczy nie usprawiedliwiać, nie wydawać wyroków, nie kopać, ale też nie pisać laurki. Zrozumieć, dlaczego tak się zachowuje, a nie inaczej. To jest moje zadanie.
Donc pour moi, en fait, ce qui est le plus important lorsque j'écris, c'est de ne pas faire mal à mon protagoniste. Je ne voudrais pas être le représentant de ces médias qu'on peut qualifier de censure, qui se jettent sur quelqu'un. J'essaye tout simplement de comprendre mon personnage. Non pas de le justifier, non pas de le juger, non pas de lui donner des coups, non pas non plus de le louer aux anges, tout simplement de le comprendre.
Alors, je voudrais dire que że my, reporterzy, możemy użyć każdego sposobu, jaki używa pisarz fikcji. Wszystkiego, co robi pisarz fikcji, możemy zrobić wszystko, poza jedną rzeczą, nie możemy nic zmyślić.
Et donc, je dois dire aussi que nous, les reporters, on peut utiliser tous les outils qui sont à la disposition de ceux qui écrivent de la fiction. Tous, sauf un. On ne peut rien inventer.
Ale w czasach, kiedy nasze reportaże na przykład są na portalach internetowych, Gazeta Wyborcza ma swój portal i tam obok jest zawsze mnóstwo reklam. Jest nasz tekst, który jest subtelny, literacki, a obok są jakieś straszne reklamy, które są agresywne. I na przykład bardzo często redaktorzy tego portalu wyborcza.pl dają inne tytuły naszych tekstów niż w drukowanej gazecie. Ten tytuł w internecie musi być ostrzejszy, musi być bardzo wprost, no i takie, żeby przyciągnął internautę. I na przykład to jest coś takiego, co mi bardzo przeszkadza. No.
Alors, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, nos reportages sont publiés sur Internet. Tous les journaux ont leur site web. Gazeta Wyborcza en fait partie aussi. Et donc, sur les sites web, on peut trouver beaucoup de publicité. Et donc, on voit notre texte qui est publié, qui est un texte subtil, littéraire. Et à côté, des pubs très, très agressives. C'est quelque chose qui est très, très dérangeant. En plus, ceux qui... qui réalise ce site web, change souvent le titre du reportage. Ce n'est pas le même titre que dans qui est imprimé dans la version papier. Le titre doit être plus fort, plus racoleur, plus attirant pour les lecteurs. Et c'est quelque chose qui me dérange vraiment profondément.
Oui, bien sûr, on n'est plus dans la période... Aujourd'hui, quand on regarde une chose sur un website, on a d'abord une petite publicité. Mais vous avez insisté sur l'empathie, en fait, ce qu'on appelle l'empathie, sur la façon de comprendre votre personnage. Et ça m'a fait penser à ce que vous dites au début de du deuxième livre qui est paru en français, celui sur la Tchéquie, et vous, sur les Tchèques, et dans lequel vous commencez par déclarer votre amour pour les Tchèques, pour ce pays que vous connaissez bien. Et vous avez cette formule, ce peuple a des défauts totalement différents des nôtres. Et c'est pour ça qu'il vous intéresse. Et donc là, il y a une façon de regarder l'autre qui m'a beaucoup plu. Et peut-être qu'on pourrait, avant de vous donner à commenter une autre façon de regarder l'autre, la manière dont Kapuscinski l'a fait lorsque il est au Ghana. Et il rencontre un homme qui s'appelle Nana. Je dis que c'est un homme parce que Nana en français, ça fait plutôt féminin. Et voilà ce qui se passe.
Nana se lève et me serre la main. Les autres vieillards l'imitent. Nous sommes devenus friends, Grosia, amigos. J'ai envie de manger. L'air n'en bouffe plus la jungle, l'huile de palme, la noix de coco, mais la viande. Notre viande de porc à 11,60 slotis dans une auberge de Vasquez. Et la bière à profusion. Au lieu de cela, nous mangeons la chèvre. La Pologne. Il neige, les femmes s'exposent au soleil, pas de colonie, une guerre, on construit des maisons, quelqu'un apprend à lire à un autre. J'ai envie de dormir, nous partons à l'aube, rester pour faire un exposé est impossible. Mais soudain, j'éprouve un sentiment de honte, d'insatisfaction, le sentiment d'avoir manqué mon coup. Ce qui a été décrit n'est pas mon pays. Voyons un peu. La neige, l'absence de colonies, c'est tout à fait juste. Mais ce n'est rien par rapport à ce que nous savons, à ce que nous portons en nous. Même sans réfléchir, ce n'est rien par rapport à ce qui fait notre fierté et notre désespoir, notre vie, notre souffle et notre mort. Donc, la neige, c'est la vérité, Nana. La neige est merveilleuse et terrible. Elle te libère dans les montagnes sur des skis, mais elle tue l'ivrogne au pied d'une clôture, car c'est le mois de janvier, l'offensive du mois de janvier, tout décembre. Varsovie, Rodja et Tchétchina. La brique, les pieds sont gelés, la vodka réchauffe, l'homme pose des briques. Ici, il y aura le canapé, là l'armoire, le peuple va entrer dans la ville. Les vitres sont recouvertes de glace, la vistule est recouverte de glace, il n'y a pas d'eau. Nous allons au bord du fleuve, au bord de la mer. Sable, pinède, chaleur, sable, l'étang, tes miels d'eau. Je dors avec toi, avec toi, avec toi. Quelqu'un pleure. Pas ici, il n'y a personne, il fait nuit. Je pleure donc. Ces nuits, nos réunions jusqu'au petit jour, les débats acharnés. Chacun à son moisier, camarade. Lueur et étoile, la Silésie, les hauts fourneaux, le mois d'août. 70 degrés devant les hauts fourneaux, nos tropiques à nous, notre Afrique noire et brûlante. Les caves, l'humidité, les pommes de terre qui pourrissent. Allez les bonnes femmes, il faut buter les patates, les bonnes femmes de la rue Novolipki. Dépêchez-vous s'il vous plaît, il n'y a pas de miracle. Comment ça, pas de miracle? Elle est bien jolie, la guerre. Fichez-nous la paix avec cette guerre. Nous voulons vivre, être heureux. Nous voulons le bonheur. Je vais te dire, tu es mon bonheur. L'appartement, le téléviseur, non. Et puis le cyclomoteur, quand il rombit, le vacarme. Les enfants se réveillent dans le parc, au lieu de dormir. Un vent terrible, il n'y a pas de nuages, pas de retraite possible. Si Adenauer réfléchit, trop de tombes, la baston et la boisson. Pourquoi pas une profession? Si nous n'apprenons pas, nos navires voguent sur toutes les mers. Des succès à l'exportation, des succès en boxe. La jeunesse avec des gants de travail, les gants mouillés, ils retirent les tracteurs de la boue. Nova Ruta, il faut construire des immeubles colorés. L'avancement du pays, l'avancement de classe. Berger hier, ingénieur aujourd'hui. Mais ça suffit, ça suffit. Ce ne sont que des codes. Les mêmes signes existent dans le bouche à Mango. Et la clé de ces codes se trouve dans ma poche. Cette clé, nous la transportons toujours quand nous partons à l'étranger, dans le monde, chez les autres. C'est la clé de notre fierté et de notre impuissance. Nous connaissons son schéma, mais nous sommes incapables de le rendre accessible à autrui. Nous le transmettons sous une forme différente, malgré la meilleure volonté du monde. Il y aura toujours un non-dit, capital, essentiel. Racontez une année de mon pays, n'importe laquelle, l'année 1957, disons. Un mois seulement de cette année, juillet par exemple, un jour seulement, disons le 6. Mission impossible. Pourtant, ce jour, ce mois et cette année existent en nous. Ils doivent exister, car nous les avons vécus. Nous avons marché dans la rue, nous avons extrait du charbon, nous avons abattu une forêt, nous avons marché dans la rue. Comment décrire une rue dans une ville, disons Cracovie, de manière à faire ressentir son mouvement, son climat, ce qu'elle a de permanent et ce qu'elle a de changeant, son odeur, son bruit, de manière à ce qu'elle devienne visible. Un insomnole. Il neige quelque part. Les femmes ressemblent à des noirs. Il réfléchit. Ils apprennent à lire. C'est ce qu'il a dit. Il réfléchit. Ils ont connu la guerre, oh là-bas, la guerre. Il l'a dit. Ouais. L'absence de colonie. Ce pays. La Pologne. Un blanc, et il n'a pas de colonie. Il réfléchit le bouche. Le bouche crie que ce monde est étrange.
Alors il y a cette étrangeté justement que vous rencontrez lorsque... Mais ce qui est très intéressant, c'est cette relation qu'il y a chez Kapuscinski entre son regard sur cette étrangeté qui est l'Afrique, qui est ce pays, le Ghana, donc le lecteur de Eben aura reconnu toute une façon de faire, et puis son regard sur lui-même et sur son propre pays. Alors vous, Mariusz, vous avez été pendant 10 ans à Prague, et donc vous étiez confronté, en fait, d'une certaine manière, même si c'est à côté, même si ce sont aussi des Slaves, comme on dit, mais vous avez été confronté à cette première chose. Alors comment est-ce que cette relation à l'autre à travers, passe à travers l'écriture? Comment est-ce que comment vous choisissez les histoires qui vous permettent de raconter tout ça?
Kiedyś jedna gazeta czeska napisała, że jestem jedynym cudzoziemcem w Pradze, którego Czesi nie wkurzają.
Alors, un jour, un journal tchèque a écrit en parlant de moi que je suis le seul étranger à Prague que les Tchèques n'énervent pas. Effectivement, je n'ai jamais été énervé par les Tchèques.
Dlatego, że postawą nas reporterów, przynajmniej tej naszej szkoły, naszej grupy, jest tak zwana ciekawa, taka życzliwa ciekawość, bym powiedział. To jest nasza postawa, życzliwa ciekawość. Ale nie oburzamy się, możemy być czymś zdumieni, ale nie oburzamy się i nie oceniamy.
Oui, parce que nous, les reporters, en tout cas les reporters de cette école de reportage, nous avons une attitude qui pourrait être qualifiée de curiosité bienveillante. On ne s'offusque jamais, on ne porte pas de jugement. On est curieux, mais de manière bienveillante.
I kiedy akurat Czesi są bardzo inni od Polaków, bo przede wszystkim są krajem bardzo sekularyzowanym, w większości są niewierzący, więc to już buduje duże różnice.
La République tchèque, c'est un pays qui est très différent quand même de la Pologne. C'est un pays avant tout très sécularisé, il y a beaucoup d'athées, donc ça c'est une différence profonde.
Ale ja zawsze zaczynam od szukania, od penetrowania tej inności i tej odmienności, a potem gdzieś dochodzę do tego, jak bardzo jesteśmy podobni. Czyli badam odmienność, ale po to, żeby znaleźć to, co jest wspólne.
Mais moi, lorsque je pénètre cette étrangeté, justement, je l'ai fait toujours dans un premier temps pour trouver finalement des similitudes. Donc je commence par ce qui est différent pour arriver à ce qui nous est commun.
Czyli przede wszystkim nie oceniać. I jak dostaję recenzję tych swoich książek w Czechach, to oni są bardzo zaskoczeni, że ktoś, że w ogóle dziennikarz może nie oceniać, że może ocenę zostawiać czytelnikowi.
Donc pas de jugement de valeur, c'est mon principal principe. Et les critiques en Tchéquie sont souvent très étonnées de voir un journaliste qui ne juge pas, mais qui laisse le jugement au lecteur.
Też zauważają Czesi, że w tym tak często porównują polskie pisanie i czeskie pisanie, czy polski reportaż i czeski reportaż. Oni badają to dosyć, tak bym powiedział, dogłębnie.
Les Tchèques souvent comparent le reportage polonais et le reportage tchèque. C'est un sujet qui est analysé en profondeur.
I mówią tak, że tam, gdzie polski reporter zostawia niedomówienie i trzy kropki, tak czeski reporter musi zostawić wykrzyknik.
Et en faisant cette comparaison, ils disent souvent que le reporter polonais ne va pas tout dire, va laisser trois points à la fin de cette phrase. Et à ce même endroit, un reporter tchèque mettrait plutôt un point d'exclamation.
Et tam, gdzie polski reporter zakończy zdanie pytaniem bez odpowiedzi, to czeski autor musi dać odpowiedź.
Et là où un reporter polonais peut terminer sa phrase par un point d'interrogation sans donner la réponse, un reporter tchèque, en revanche, est obligé de donner la réponse.
Mais peut-être qu'il y a une caractéristique que je ne compare pas avec les Tchèques, mais avec les Polonais, que j'ai trouvé qui vous est commune à tous les, deux, c'est la manière dont vous commencez un reportage. Parce que, par exemple, il y a un vieux truc de journaliste qui consiste à raconter une anecdote, pour faire une accroche, et puis après on fait une grande dissertation sur un sujet. Ce n'est pas du tout ce que vous faites. Vous prenez un détail, et vous partez de ce détail, on le suit, et on suit une histoire, et à travers cette histoire, on va avoir des informations qui vont venir une après l'autre. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez toujours une approche qui n'est pas une approche hostile à vos personnages, mais même si vous avez, on sent que vous n'aimez pas, ou que, bon, mais vous avez toujours cette façon qui rentre comme ça. Et est-ce que, ça je trouve, c'est tout à fait fort dans vos textes, mais c'est aussi très fort dans la manière dont Anna Kral commence ses reportages. Qu'est-ce que vous pensez sur cette technique?
Ja mam taki ukochany początek u Hanny Kral. To jest takie coś, co w ogóle jest, jak ktoś nie rozumie, czym jest reportaż literacki, to ja daję zawsze taki przykład.
Alors, effectivement, vous parlez du comment on commence le reportage. Moi, j'ai un reportage qui est mon préféré. Le début de ce reportage est mon début préféré. Et lorsque quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le reportage littéraire, je cite toujours ce début de reportage.
Kiedyś Hanna Kral odwiedziła pewną rodzinę, która mieszkała na terenie dawnego getta w Warszawie. Getta żydowskiego.
Un jour, Hanna Kral a rendu visite à une famille qui vivait sur le terrain de l'ancien ghetto de Varsovie.
I zobaczyła tam takie maleńkie drzewko śliwkowe zwane mirabelką.
I elle a vu là-bas un petit arbre
na podwórku,
qui donnait des mirabelles.
Ta mirabelka potem stała się pewną metaforą w tekście.
Cette mirabelle est ensuite devenue métaphorique au fil du texte.
I teraz tak, powiem tak, zwyczajny dziennikarz, gdyby zobaczył to drzewko, to musiałby napisać, że.
Donc je peux décrire la situation ainsi. Un journaliste ordinaire, en voyant cet arbre, devrait écrire la chose suivante.
Że drzewko było rachityczne, pochylone.
Que cet arbre était rachitique, qu'il était penché.
Miało troszkę już powyciągane z ziemi korzenie.
Que ses racines sortaient un petit peu de terre déjà.
Wyglądało jakby już za chwilę miało przestać żyć.
Et qu'il semblait être vraiment à la fin de sa vie.
No i tak my byśmy wszyscy to opisali. A Hanna Kral?
I tout un chacun d'entre nous décrirait cet arbre de cette manière.
Zaczęła tekst taki, opisała to wszystko w trzech słowach. To były trzy słowa, czyli jedno zdanie. Taki zaczynał tekst.
Et Hanna Kral a commencé son texte en décrivant tout cela en une phrase de trois mots seulement.
Mirabelka próbowała odejść.
La Mirabelle essayait de partir.
Kropka.
Mais on peut citer un autre début qui est un début magnifique.
C'est
son interview avec Marek Edelman. Bah, on attend une interview politique. Et lui dit, mais alors ce jour-là, ton pull était rouge.
początek brzmi tego dnia,
tu portais un pull rouge. Donc vous avez aussi, je pense que dans tout le travail dans de ces deux auteurs, mais surtout, mais je pense aussi chez Anna Kral, elle a ce goût du détail.
Et
est-ce qu'il n'y a pas, je voudrais poser cette question à Anna Kral, est-ce qu'il n'y a pas dans ce goût du détail une relation très particulière à ce qu'on pourrait appeler le souvenir, pas la mémoire, le souvenir. C'est-à-dire que on se souvient de quelque chose. C'est-à-dire qu'individuellement, on se rappelle la couleur du pull, on se rappelle l'odeur de l'eau ou de la forêt, mais pas forcément tout. Mais il y a un souvenir. Et est-ce que ce n'est pas un des fils directeurs de votre écriture?
Jeszcze wtedy, kiedy pisałam te reportaże, które są tutaj.
Ça ne date pas de ce texte. En tout cas, mon amour du détail, comme vous le décrivez, est déjà présent dans les reportages que j'écris et qui sont recueillis dans ce volume.
Les reportages sont wypełnione szczegółami.
Ces reportages sont remplis de détails.
Oui, poprzez te szczegóły ja mogłam opowiedzieć coś mogłam ważnego o ludziach tych opowiedzi.
C'est justement par ces détails que j'ai pu raconter quelque chose d'important sur ces personnes. J'étais ainsi capable de décrire leurs rêves, ce qui les rend heureux. Je pouvais aussi apprendre quelle était leur idée du bonheur.
I ja myślałam, że ta metoda tego szczegółu jest przydatna tylko w małym realizmie, w tym, co nazywa się mały realizm, w tych reportażach.
I je pensais au début que cette méthode du détail n'était utile que pour ce type de reportage, dans ce petit réalisme.
Potem się okazało, że ta metoda jest przydatna przy wielkim realizmie, przy wielkich sprawach, właśnie przy opowieści o Marku Edelmanie.
Et c'est après coup que j'ai compris que cette méthode du détail pouvait aussi servir pour décrire des grandes choses dans ce grand réalisme.
Kiedy ja rozmawiałam z Edelmanem, ja rozmawiałam z nim przez długie miesiące i nie odważyłam się niczego pisać, bo ja się po prostu bałam tego. Bałam się, że to jest za wielkie dla mnie, że ja tego nie ogarnę, że to jest za wspaniałe, że ja nie będę umiała tego napisać.
Lorsque je parlais avec Marek Edelman, ces conversations se poursuivaient au fil des longs mois, je n'avais jamais le courage d'écrire, de prendre des notes. J'avais peur que c'était un sujet trop grand pour moi, que je ne serais pas à la hauteur pour l'écrire.
Ale ja miałam taki zwyczaj, jak ja z nim rozmawiałam, że ja notowałam moje własne pytania zawsze.
Mais j'avais l'habitude, lorsque je m'entretenais avec lui, de noter mes propres questions.
I ponieważ te rozmowy toczyły się w Warszawie, a jego szpital był w Łodzi, więc on był ciągle na gorącej linii, ciągle pytano go, co z jakimś pacjentem zrobić i on musiał bez przerwy przez telefon wyjaśniać, co ma tam się dziać na jego oddziale w szpitalu.
Et je menais ces entretiens à Varsovie alors que lui, il travaillait dans un hôpital à Lodz. Et donc, à chaque fois que je parlais avec lui, il était interrompu par des coups de fil parce qu'il devait répondre de toute urgence pour savoir ce qu'il fallait faire de tel ou tel patient.
Et po takiej przerwie, ja musiałam mu przypomnieć, o czym rozmawialiśmy.
Et après une telle interruption, il fallait que je lui rappelle de quoi on était en train de parler.
Mais ça vous a permis aussi de lui poser des questions.
Et bien sûr, il me disait, non, nosiłeś wtedy czerwony sweter.
Et donc, parfois, je commençais ainsi en lui rappelant, ce jour-là, tu portais donc un pull rouge.
Et ce sweter był bardzo ważny, bo on go wyszabrował z jakiejś walizki Żyda jakiegoś, którego już nie było. Jak już go nie było, to już można było wyszabrować jego rzeczy z walizki.
Et ce pull, c'était un détail très important parce que ce pull rouge, il l'a chippé en quelque sorte dans la valise d'un juif qui était parti. Donc on avait le droit à ce moment-là de chipper un pull.
Na tym sweterze on miał dwa pasy. On powiedział, no to dopisz jeszcze dwa pasy na krzyż.
Et il m'a donné d'autres détails. Il m'a dit, oui. Dit encore qu'il y avait deux rayures à
se croiser. Et ces deux rayures,
c'était un détail aussi.
A na tych dwóch pasach były dwa rewolwery.
I sur ces deux rayures, au bout, il y avait deux revolvers.
Rewolwery też są szczegółem.
A rewolwer, c'est un détail aussi.
Ja nie dam dojść do słowa temu panu.
Mais non, mais en même temps, non, parce que je crois que l'exemple que vous avez donné est excellent, parce que...
Przykład, który pani podoba, jest naprawdę świetny.
En même temps que vous parlez avec Marek Edelman de l'insurrection, de la décision, de est-ce qu'il faut tuer les gens, est-ce que je vais tuer quelqu'un, est-ce que je vais me battre, pourquoi je me bats. En même temps, vous discutez avec lui, il vous raconte l'histoire d'un patient qu'il faut opérer du cœur, c'est très grave. Et vous lui posez la question sur la décision. Et c'est très intéressant parce que ça nous met au cœur de cette question qui est la décision de se battre, de mettre sa vie en danger ou la vie d'un autre en danger. Qui est une décision fondamentale de l'insurrection de Varsovie, du ghetto de Varsovie.
Te dwa wątki się splatały, on jako bojowy, jako żołnierz powstania i on jako lekarz, to się splatało w życiu i to musiało po prostu być w książce, to było naturalne. Ja tego nie wymyśliłam. Tak było w życiu, wobec tego tak było w książce.
Mais ces deux sujets étaient entrelacés en fait, lui en tant que combattant et lui en tant que médecin. On était ainsi dans la vie et donc c'est tout naturellement que je l'ai mis également dans le livre. Je n'ai rien inventé, la vie était ainsi et je l'ai décrite.
Ale muszę panu powiedzieć, że Edelman jako lekarz robi na mnie większe wrażenie niż jako powstanie. Bardziej mi to imponuje.
Mais je dois vous dire que Edelman en tant que médecin m'impressionne plus qu'Edelman en tant que combattant.
Bo każdy potrafi strzelać, jeżeli ma z czego, oczywiście.
Parce que tout un chacun sait tirer si la l'arme.
No do kogo to zawsze się znajdzie.
Il y a toujours quelqu'un, on peut toujours trouver quelqu'un sur qui tirer.
Być takim lekarzem, albo lekarzem natchnionym.
C'était un médecin extraordinaire, un médecin inspiré.
Merci, peut-être qu'on va, on va terminer avec une autre lecture, parce que quelle la lecture, c'est justement un portrait interview d'Anna Kral, d'un personnage qui à l'époque était peu connu, mais qui est devenu un des grands personnages symboliques de la grève de Gdansk en août 80, qui est Anna Valentinovitch. Et elle l'a rencontré au moment même, juste un peu après la grève, et elle fait ce portrait. Je pense que c'est intéressant de le lire pour conclure.
Anna Valentinovitch a la question sur l'instant précis où elle comprit ce qu'il fallait faire. Il y a 2 ans, j'ai entendu pour la première fois parler des syndicats libres. J'ignorais ce que c'était, mais tout de suite une pensée m'est venue à l'esprit. Si nous avions un véritable syndicat, nous ne serions pas aussi démunis. Je me suis mise à chercher des gens capables de me renseigner. J'ai été surprise en les rencontrant. C'était des personnes cultivées, de l'intelligentsia, et ils voulaient nous apporter leur aide, à nous, les ouvriers. J'en ai parlé à mes collègues de la section, et je leur ai apporté de la presse clandestine et des publications interdites sur le mouvement syndical. J'ai commencé à subir des brimades. Les employés avaient reçu l'interdiction formelle de m'adresser la parole, et le contremaître a délimité l'itinéraire que j'avais le droit de parcourir. Du portail au vestiaire, des vestiaires à mon poste de travail. Dans la halle de production aussi, j'avais un espace fixe à ne pas franchir, depuis l'entrée jusqu'à la grille. Et comme nos toilettes se trouvaient en dehors, on m'a fourni une clé pour accéder au sanitaire de l'atelier voisin. Le moindre pas hors de la zone délimitée était considéré comme un abandon de mon poste de travail. En janvier, j'ai été transférée dans un autre atelier. J'ai travaillé avec 3 personnes, dont chacune était chargée d'une mission particulière. Le brigadier devait m'empêcher de sortir, le chef d'équipe veillait à ce que je ne parle pas aux autres, et Madame Yadja me faire la causette. Ce transfert étant illégal, car je n'avais reçu aucun papier stipulant un quelconque changement de mes conditions de travail, je me suis adressée à la commission d'arbitrage. La commission d'arbitrage a transmis l'affaire à la commission d'appel, laquelle a saisi le tribunal, puis le tribunal a retourné le dossier à la commission d'appel, de sorte que 6 mois plus tard, en vertu de l'arrêté définitif, j'ai été rétablie à mon ancien poste au V2. Tous les jours, j'allais au travail conformément à la décision du tribunal, mais on ne me laissait pas travailler. Tantôt, on m'enfermait à clé dans les vestiaires, tantôt les vigiles me retenaient de force au poste de garde, parfois rien de spécial ne se passait, mais le directeur soutenait dur comme fer, qu'il se fichait du verdict du tribunal, et ainsi de suite. Le 9 juillet, Les gardiens ont fait venir une voiture et m'ont conduite au service du personnel. Après 30 années de travail au chantier naval de Gdynia, on me délivra une notification de licenciement disciplinaire, un certificat de travail et les arriérés de mon salaire. Dans la notification, on pouvait lire « Conformément à l'article 52, pour avoir délibérément abandonné son poste de travail, alors que je venais au chantier tous les jours et que je pointais. » L'employé qui a procédé à mon licenciement m'a dit « C'est terrible ce qu'on vous a fait, Anna. J'ai dû avaler 2 cachets de calmant pour pouvoir vous délivrer votre feuille de licenciement. » Je lui ai demandé « Alors pourquoi le faites-vous ? » « C'est moi qui serais renvoyé si je ne le faisais pas, » m'a-t-elle répondu. « Quelqu'un d'autre viendrait à ma place et ferait la même chose. » « Alors qu'ils ne le fassent pas, et les autres non plus, et ils ne vont pas quand même licencier tout le monde. » « Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas une chose aussi simple que ça ? Vous le savez, vous ?» Anna Valentinovitch a la question « Les gens sont-ils mauvais ?» Lorsque la grève a éclaté, il s'est passé une drôle de chose avec les gens. Ils sont devenus bons. Un monsieur, par exemple, un de ceux qui comptait parmi mes pires persécuteurs, s'est mis soudain à prononcer des discours assez courageux au micro, mais je n'ai pas pu me retenir et je lui ai rappelé comment il s'était comporté avant. Cet homme m'a rendu visite récemment et il m'a demandé pardon. Tout le monde me demande pardon ces derniers temps. Tout le monde est devenu si aimable et si bon avec moi. Même les vigiles qui m'avaient tordu les bras me disent maintenant « Bonjour Anna !» Le chef d'équipe, celui qui veillait personnellement à ce que je n'utilise que les toilettes qui m'étaient attribuées, me félicite à présent. Tandis que Mme Yadjia, chargée à l'époque de copiner avec moi, m'a dit « Je suis avec vous, Anna. » Je suis allée les voir un jour de grève en compagnie d'un journaliste anglais. Ils se sont réjouis de me voir. « Nous étions obligés de faire ça, Anna, parce que nous avions peur, m'ont-ils dit. Et maintenant, vous n'avez plus peur ?» leur ai-je demandé. « Non, plus maintenant. » Et nous sommes tombés dans les bras les uns des autres. Voyez-vous, je pense que les gens ne sont peut-être pas mauvais. Seulement, ils ont peur.
Cet entretien, ce texte a été d'ailleurs refusé dans ce Politica dont on a parlé tout à l'heure. Et elle l'a publié dans un autre journal qui s'appelle Tychonik Powszechny, qui est un journal, catholique libéral. Et Anna Valentinovitch, comme vous savez, c'est sur son licenciement qu'a commencé la grève de août 80. Elle a été réintégrée grâce aux grévistes. Donc je pense que je voudrais d'abord vous remercier Gabriel Forest pour ses lectures. Remercier Margot Carlier, Anna Kral, Mariusz Chegou pour leur présence. Et nos traductrices aussi. Mais Anna veut dire quelque chose. Mais Anna veut encore dire quelque chose.
Moi, je voulais remercier Margot Carlier,
która wymyśliła tę książkę.
Qui a eu l'idée de ce livre.
To był karkołomny pomysł. Ja próbowałam jej to wyperswadować.
Moi, je dois dire que j'étais contre au début. J'ai essayé de l'en dissuader. Je trouvais que c'était une idée difficile.
Mówiłam, kogo to będzie obchodziło? Takie retro, takie jakieś starocie. Sprzed 30 lat, tak?
40 lat. Je me suis dit, mais qui serait intéressé par ces sujets? C'est très rétro, ça date d'il y a 30 ou 40 ans.
I Margot mówi, ale to jest bardzo ciekawe.
Mais c'est Margot qui disait, mais non, au contraire, c'est très intéressant.
Po czym okazało się, że ludzie chcą to czytać, że to się podoba. Ja nadal nie bardzo rozumiem dlaczego.
Et là, aujourd'hui, on voit que ça plaît aux gens, ils veulent le lire. Je ne comprends toujours pas.
Mais Margot, bardzo pani.
Peut-être que Margot pourrait nous dire aussi l'origine du titre en plus de...
Alors, moi, je voudrais aussi, alors après Anna Kral, ajouter quelque chose. En effet, elle était complètement contre ce sujet. Elle me disait, mais qui va lire ça? C'est absolument pas la peine de faire ça. Mais je voulais vraiment vous dire que ce livre-là, je le fais vraiment pour me faire plaisir. C'est-à-dire, en lisant ces textes, les textes de Ryszard Kapuściński et de Anna Kral, parce qu'on a beaucoup parlé d'Anna Kral, bien sûr, mais il y a des textes de Ryszard Kapuściński, il y a une certaine similitude d'approche, de la façon bienveillante, empathique de parler des gens.
La photo.
Et avec... Donc, ce n'est pas par hasard que j'ai eu l'idée de réunir ces deux auteurs. Et d'ailleurs, avec, je voulais aussi ajouter que c'est aussi une... l'aventure de deux traductrices, parce que Véronique est là, et sans la participation de Véronique, qui est traductrice de Richard Kapuscinski, ce livre-là aurait été différent. Et je remarquais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a traduit, toi tu as traduit le premier livre de Kapuscinski et moi le premier livre de Kral la même année, en 1994. Voilà.
Et le titre ?
Et le titre, La mer dans une goutte d'eau, c'est Adam Michnik qui disait souvent que le reportage est comme une goutte d'eau qui peut évoquer ou cacher la mer.
Merci, je vous signale que tous ces livres sont en vente en bas. Il y a une librairie, vous pourrez acheter les livres de Anna Kral, de Richard Kapuscinski et de Maru Chego. Et voilà, je voulais vous dire que... Oui, beaucoup de livres sont épuisés, malheureusement, ils publient chez... Bon, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient republiés. C'est un des très beaux, un des meilleurs livres.
C'est preuve, c'est
épuisé. Oui,
c'est pas marrant.
Au revoir. Merci.